le Max Sport avec Loïc Colombier.
Et bonsoir, chers amis sportifs, bienvenue à l'antenne de Radio Albigès pour votre Max Sport du 12 octobre 2018. Aujourd'hui, au sommaire, vous retrouverez en fin d'édition une interview du président de l'US Carmo Basket, Monsieur Bezin, qui nous fera un point sur son club, 88 ans d'existence quand même. Et bien sûr, sur l'actualité des Gazelles Carmosines, l'équipe Fagnon du club qui évolue en National 2 et tient le haut du pavé du basket tarnais. Nous ferons aussi un point sur le foot féminin avec la SPTT Football de l'Albigeois qui a pris une victoire 2-0 dans son premier derby de la saison face au TFC. Va aller chercher la passe de 2 en se déplaçant chez les voisines de Portet-sur-Garonne qui cumule 6 défaites en autant de matchs et son lanterne rouge ce groupe B de D2 féminine. Pour les filles SPTT, ce samedi, au stadium municipal de Portet, les filles ont un impératif concrétisé en ramenant les 3 points. Mais en introduction, commençons avec nos gladiateurs jaunes et noirs qui, après avoir étrié 73-11 au Stadium Oloron, et après avoir eu un match en mode gastouf-ferraillage dimanche dernier sur le plateau de la maison, va conclure son triptyque pyrénéen par la réception en direct sur nos zones des 18h45 samedi, le Stade Bagnéret. On va faire le point sur l'actu des jaunes et noirs avec la conf de presse hier soir avec Kevin Boulogne à notre micro, la compo pour samedi, les dernières infos de la poule de Outarbes et dans l'œil du cyclone. L'œil du cyclone, c'est quel cyclone? L'ADNCG, bien sûr. Et puis surtout, avec l'analyse de notre invité guest star du jour, le mythique Henri Boncon. Allez, en avant pour la chronique. Allez. Commençons cette rubrique rugby SCA Fédéral 1 avec le scoop du jour, enfin le scoop de hier, les soucis financiers que subissent nos amis et rivaux de la poule 2 du Stade Tarbes Pyrénées Rugby.
C'est l'or, il est l'or, l'or de se réveiller, Monseigneur, il est 8 heures.
Car, comme nous l'annoncions ici même, dans le Max Sport, en fin de saison passée, la DNACG avait un œil plus qu'avisé sur le Stade Tarbes Pyrénées Rugby, tout comme aussi le Sporting, Narbonne ou encore Dax. Eh bien, nos voisins des Hautes-Pyrénées seraient bel et bien, selon une info, la dépêche du midi, dans les mauvaises grâces du gendarme financier du rugby, la DNACG. En clair, il serait reproché, selon un journal qui informe vite et bien, de la chose suivante, et je vous en fais lecture. Donc, la dépêche du midi mentionne que le club bigourdan doit présenter des documents avant le lundi 15 octobre attestant que ses comptes et finances sont sains. Le gendarme financier du rugby français décidera alors si le Stade écope ou non d'une sanction. Tout devrait être réglé avant lundi, annonce confiant le président Lionel Terré, sauf qu'il semble bien que le Stade ait du pain sur la planche. Selon les informations d'Actu Rugby, le club aurait un trou à combler de 400 000 euros avant lundi, sans oublier qu'il doit disposer des fonds propres à hauteur de 100 000 euros. Pas si simple que cela de trouver une telle somme dans un laps de temps aussi court. En cas d'échec, ce serait un terrible coup dur pour le Stade qui se porte plutôt bien sur le plan sportif. Une relégation à l'étage inférieur n'est pas impossible si l'argent n'est pas trouvé. Par ailleurs, le président Terré a précisé que le budget du Stade serait inférieur à 2 millions d'euros. On n'aura pas beaucoup d'argent, mais nous n'aurons pas de dette. Fin de citation de nos amis La Dépêche et de Actu Rugby qui ont sorti cette info qui en fait beaucoup de bruit dans le microcosme de la Fédérale 1. Donc, pour revenir à nos moutons, pour Tarbes, c'est la course contre la montre, car en termes sportifs et ou financiers, lundi, 7, demain. Surtout que d'après nos infos, Tarbes ne dispose pas bien sûr des 100 000 euros de fonds propres bloqués, nécessaires pour jouer en Fédéral 1, règle qui est similaire pour tout le monde. Mais là où le Stade n'est pas où ses pins, c'est qu'en cas d'accession en Pro D2, ils devront bloquer et trouver 250 000 euros de fonds propres supplémentaires avant mi-juin. Pourquoi 250 000 euros? C'est pas un chiffre que je vous balance à la hâte comme ça. Car tout club voulant être accepté en Pro D2 doit disposer d'un budget minimum de 3,5 millions et de 10% de celui-ci en fonds propres. Donc 100 000 plus 250 000 égale 350 000 CQFD. En clair, du côté du Stade Tarbes Pyrénées Rugby, en plus d'aller faire un maxi tour de table en moins de 72 heures, il va falloir faire marcher la machine à cash.
Thank you.
Allez, après ces péripéties extra-sportives des tarbés, et donc il ne faut pas trop se gosser car personne n'est à l'abri de ce genre de soucis dans cette Fédérale 1 où il n'y a aucun modèle économique et même pas le SCA n'en est à l'abri. On va passer maintenant au match de ce samedi au Stadium d'Albi en direct sur Radio Albigès dès 18h45 avec mon ami Vincent Clément et moi-même au commentaire. Match qui va opposer nos abeilles jaunes et noires aux montagnards du Stade Bagnères. Pour ce match où le SCA se doit de continuer à engranger les victoires, voire les bonus offensifs, le staff albigeois a décidé de faire malgré tout un brin de turnover. Donc la composition sera la suivante. En première ligne, le jeune Jimaël Jean-Jacques, arrivé de Brive la saison passée, associé au talent, au dynamique Arnaud Feltrin et au robuste et rugueux Zaza Navrosashvili à droite. La seconde ligne associera le vieux sage et capitaine Mathieu André au bouillant et prometteur Jérôme Dufour, arrivé à l'intersaison de Mâcon. La troisième ligne sera composée de Paul Faré, le joyau de la formation albigeoise, de William Wetton à l'aile et du Perse Muraille inoxydable Tounou Tavaléa au centre. La charnière sera la suivante, le jeune Martin Douan remis sa commotion face à Nafaroa et Jérémy Russel, l'ouvreur formé au Stade Montois, arrivé cet été d'Agen. Les deux centres seront la paire qui a fait un malheur à la Nemezan. Gaëtan Bertrand et Lucas Vavaro qui furent de loin, avec Mathieu André, les meilleurs dans ce match de haute volée physique, on va dire. À l'aile, Flash Gordon Lasselle sera associé à un autre, on va dire, joueur prometteur de la formation albigeoise, le Carmozain Dorian Hermé, frère de la capitaine de l'équipe de France féminine de rugby, Gaël Hermé. Et le tout sera suppléé à l'arrière par Ben Caminati. Les entrants ou les remplaçants, vous choisissez au choix, seront les suivants. Benoît Sevestre qui fait son retour dans le groupe, le bouillant catalan Romain Casals, le russe Ruslan Boukerou, Simon Pardakti, toujours aussi jovial et sympathique, et on espère qu'il ne prendra pas un rouge pour son retour, le jeune Romain Uruti, Thibaut Bisman, Louis Decroux qui revient de blessure, et Nicolo Cecato, le bouillant italien du Sporting Club albigeois. En 24e et 25e homme, on retrouvera Loumou Tafili et Simon Vérac. Voilà pour cette équipe qui va affronter les Bagnères et où le staff a laissé au repos les deux dieux, Mafi, Cormenier, Gaillard, Essid, Calas et consorts, attendant aussi que Lolo Magnaval, Tuxwasinibu et autres Benoît Sicard soient de retour de blessure. Mais bien sûr, pour avoir tous les éléments on va dire, d'appréciation, on s'est rapproché du lieutenant en chef d'Arnaud Mella, alias Kevin Boulogne. On l'écoute en conf de presse ce jeudi soir à l'issue de la mise en place, en micro partagé avec nos confrères Guillaume Courveille du Tard Libre et Alain Murat du site des bénévoles du SCA.
Allez, Kevin, de retour de la Nemezan où on a un peu pris sur la courge pendant demi-heure. Arnaud disait avant ce match qu'il ne fallait pas y aller, on va dire, avec la gloriole. On peut dire qu'il y a eu une cure d'humilité qui a été faite à la Nemezan parce qu'on a vu ce que c'était les vrais matchs de Fédéral 1 avec supplément d'âme non négligeable.
Ah, bien sûr. Bien sûr, mais je pense pas que c'est un manque d'humilité. Je pense que c'est juste dès le début de match, on a manqué de stratégie, mais complètement. On avait le vent, on n'a jamais joué au pied, on a fait tomber des ballons, on a relancé notre en but. Et cette équipe de la Nemezan nous a remis les pieds sur terre, nous a montré que si on respecte pas les fondamentaux et une stratégie de jeu, on pouvait se faire très vite contrer. Donc tant mieux, c'est une belle piqûre de rappel. En plus, c'était un temps assez compliqué, donc ça nous prépare aussi pour l'hiver qui va pas tarder à arriver aussi. Donc tant mieux, ça nous a fait travailler dans de bonnes conditions à balle réelle, c'est très bien pour nous et c'est une piqûre de rappel.
Après, dans les points positifs, il y a cette touche qui a été quand même assez, on va dire, performante, voire très performante. Il faut capitaliser dessus pour ce match contre Bagnères.
Après, il n'y a pas de miracle. Quand on voit qu'on a une grosse touche et une grosse mêlée depuis quelques week-ends, on a remis la marche en avant, on voit que les scores aussi y suivent parce que, comme je viens de dire juste avant, les fondamentaux fondamentaux, c'est la base de tout. Si on n'a pas un ballon en mêlée, pas un ballon en touche, on ne peut pas jouer au rugby. Donc sur ça, les gros, ils font le job depuis le début de l'année, c'est très très bien. Nous, les trois quarts, on a mis un ou deux matchs à se roder, et là, ça fait 2-3 matchs, on est quand même très satisfait du comportement et du jeu surtout. On commence à se trouver, avoir des passes fluides, des mouvements vraiment bien huilés, donc tant mieux. Mais voilà, maintenant, il faut pas que se reposer sur les gros, il faut continuer comme ça. Il faut que quand les gros soient un peu dedans, les trois quarts prennent le relais. Et quand les trois quarts sont un peu dedans, les gros prennent le relais. C'est ce qui est bien fait depuis 2-3 week-ends, donc qu'on continue comme ça.
Alors là, c'est le dernier acte, on va dire, du triptyque pyrénéen, avec des équipes, on le sait, qui ont dans l'ADN ce combat et ce don de soi. Vous attendez un gros défi de nouveau ce samedi?
Ah, bien sûr. Bien sûr qu'on s'y attend, mais contre toutes les équipes, qu'elles soient du côté basque ou du côté de la Côte d'Azur ou autre, c'est des équipes qui mettent de l'agressivité, qui mettent du combat dans toutes les phases de conquête. Donc voilà, ça, on le sait depuis le début de l'année, donc on s'y est préparé pour. On fait le dos rond quand on est à l'extérieur pendant un quart d'heure, 20 minutes, temps de laisser passer l'orage, comme on dit. Et à la fin, voilà, au jour d'aujourd'hui, ça nous sourit parce qu'on ressort avec la victoire. Donc pour l'instant, on est plutôt pas mal là-dessus. À la maison, on arrive on arrive dès le début à mettre notre jeu en place et à annihiler toutes les ambitions des équipes adverses. Donc ça, c'est très bien. Mais par contre, il faut qu'on continue comme ça. Parce que, voilà, comme on disait, ce championnat, il est très long. Le plus important, c'est les phases finales. C'est à la fin du bal qu'on paiera les musiciens. Donc le plus important, c'est les phases finales. Il faut travailler pour les phases finales et garder ce rythme toute l'année et pas par moment jouer par à-coup, par manque d'humilité, par manque de combat. Sinon, ça passera jamais.
Vous avez reconduit la paire de centres Vaccaro et Bertrand qui avait donné satisfaction à la Meuse.
On sent qu'il y a une belle complicité entre les deux.
Ah oui, ils ont une très belle complicité. Ça se voit, ça se voit en dehors du terrain, même sur le terrain. On va pas se le cacher. À la Meuse, ils nous ont débloqué des situations à eux deux. Hein. Mm-hmm. Ils ont breaké bon nombre de fois sur des exploits individuels, sur une entente très bien huilée. Donc non, on les reconduit parce qu'ils font des bonnes performances, parce qu'ils sont complémentaires. Voilà, on ne va pas changer, comme on dit, une équipe qui gagne, donc on continue comme ça. Après, on a plein d'autres alternatives. On a eu aussi sur le match de Laurent, Lucas Vaccaro avec Alfie Mafia en 13 qui s'est très bien comporté. On a eu aussi au début Gaëtan Bertrand, Dorian Hermé, ça s'est très bien comporté contre Nafarroa. Donc c'est vrai qu'on a quand même de la polyvalence derrière, et vraiment, que ce soit jeune, moins jeune, nouveau ou ancien, vraiment une bonne osmose qui s'est créée depuis le début de l'année. Et à côté de ça, ils s'entendent tous très bien.
Et peut-être par rapport à l'an dernier où il y avait peut-être moins de profondeur de balle, là, derrière cette année, il y a quand même des options qui ne sont pas négligeables.
Je t'aurais pas dit ça en début de saison parce qu'on avait quand même pas mal de cas et on devait un peu bricoler. Mais là, c'est vrai que ça fait un petit mois là où on a rentré du monde, où les mecs ont mis la marche en avant, et c'est vrai que on a quand même maintenant l'opportunité. On n'a plus peur de quel que soit le joueur qu'on va mettre sur le terrain. On sait que tout le monde va répondre présent, même quel que soit le poste, parce qu'on a tendance à dire on n'a pas un numéro dans le dos mais un maillot, et ça, les joueurs l'ont bien compris, et c'est ce qui fait notre force aujourd'hui.
Et cette équipe de bannière de Bigorre, qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Quels sont ses atouts, ses points forts?
Ah ben, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, c'est le combat, l'agressivité. Ils sont costauds en mêlée, en touche c'est un peu plus compliqué, en étant honnête, de ce qu'on a vu comme image. Mais après, voilà, dans le jeu, ça plaque, ça rate pas trop de plaquage, ça conteste plutôt pas mal. Le gros point fort pour nous, ce sera de mettre du rythme et d'écarter les ballons pour éviter le plus possible ces zones de confrontation et leur donner l'opportunité de nous retarder le ballon.
Alors, il y a aussi un duel à distance avec Saint-Jean-de-Luz. Là, on est revenu à un point, on va dire, en klaxon dans les rétros. Saint-Jean-de-Luz, on sait que c'est une équipe qui joue beaucoup sur le jeu d'arrière. Avec le temps hivernal, on va dire, ça va être plus compliqué pour eux. Ça serait bien peut-être de leur passer devant avant de les recevoir au stadium.
Sincèrement, ça m'est complètement égal. Je ne regarde pas du tout Saint-Jean-de-Luz sans leur faire offense, parce qu'ils ont des très bons résultats, c'est très bien. Nous, cette année, on regarde vraiment que notre équipe. On montre presque pas d'image, voire pas sur certaines semaines, des équipes adverses. On se concentre que sur nous. Saint-Jean-de-Luz gaz, pour l'instant, c'est très bien. Mais voilà, il y aura une rencontre très attendue au stadium. Nous, on sera prêts et j'espère que vous aussi.
Après, on est beaucoup les suiveurs, les premiers, comme les supporters, ou vous, les membres du staff ou les joueurs, on se projette beaucoup vers les quarts de finale. T'as pas peur que ça fasse un peu grosse tête, quand les adversaires pensent qu'on s'y voit déjà?
Non, faut être honnête. Pourquoi grosse tête? C'est pas un manque d'humilité que que ce championnat, et c'est bizarre pour toutes les poules, avec des favoris dans les poules qui assument leur statut et qui, voilà, qui gagnent les matchs simplement, et des fois même avec beaucoup de points, et un état un peu dangereux pour les équipes adverses, parce que les présidents des autres équipes, même les joueurs, le disent. Donc c'est pas que nous qui faisons les beaux, c'est réellement un constat que tout le monde fait, et c'est pour ça que c'est assez compliqué, parce qu'on peut se retrouver d'un week-end à 70 points comme d'un week-end à 10-6 avec de l'agressivité, des mauvais gestes, du jeu, pas de jeu, c'est très très aléatoire. Donc on se voit pas plus beau que l'on est. Nous, on sait qu'on veut se qualifier, on sait qu'on va se qualifier, on se dit ça dans nos têtes, parce que c'est en se disant ça qu'on va y arriver. C'est pas en se disant qu'il faut qu'on fasse tout pour le faire, non, c'est on va le faire, point barre. Mais c'est pas un manque d'humilité, c'est juste une ambition.
Alors pour préparer cette phase finale, je préfère des matchs comme contre la Meuse où on prend sur la courge pendant une demi-heure, ou alors des cavalcades folles comme contre la Farroa où on passe 73 à Grignes.
Un mix des deux, ça serait bien. Un mix des deux, voilà, avec une équipe qui est très agressive devant et qui arrive à nous contrer, à nous retarder énormément, et une équipe derrière très joueuse qui nous met à mal. Voilà, ça serait très bien, parce que d'une, ça nous donnerait vraiment une grosse opposition et qui va pas tarder à arriver, parce qu'on va quand même prendre le deuxième, le premier et tout ça. Mais on voit que dans les autres poules, Dax, Rouen, tout ça se prépare bien en se jouant entre gros. On voit les matchs qu'ils font, ça tape, c'est épais, et ça se prépare, on va dire, un peu mieux que nous au jour d'aujourd'hui pour les phases finales.
Ok, allez, pour finir, les maîtres mots en trois mots pour ce match.
En trois mots, humilité, victoire et travail.
Merci Kevin.
Allez, Kevin a lancé le match, manque plus qu'aux joueurs d'aller transformer l'essai. Mais vous le savez, à Radio Albigès, on n'est jamais rassasié, et pour prendre le pouce de Fédéral 1, on s'est rapproché d'un mythe du rugby hexagonal, notre Highlander de la balle ovale, le sorcier gersois Henry Brancan.
Je suis Duncan MacLeod, né il y a 400 ans dans les hautes terres d'Écosse. Je suis immortel, tout comme une poignée d'élus. Des siècles durant, nous avons attendu l'heure de l'ultime combat, au terme duquel l'épée qui tranche une tête libère le quickening, la puissance de l'éclair. À la fin, un seul d'entre nous survivra.
Henry Brancan, bonjour, et c'est un grand plaisir de vous avoir à notre antenne. Allez, on va rentrer de suite dans le vif du sujet. Qu'est-ce que vous pensez de cette Fédéral 1 qui, cette année, on va dire, marie la carpe et le lapin?
C'est un championnat très dangereux, quoi. J'avais entendu votre interview du président Dolon.
Oui.
Je suis tout à fait d'accord avec lui. Vous comprenez bien qu'entre Albi et Nafarroa, il y a trop d'écart entre une équipe qui s'entraîne depuis la fin juin, qui s'entraîne tous les jours, composée de joueurs professionnels, et d'autres joueurs qui s'entraînent à deux, quelquefois trois fois par semaine, mais qui ne sont pas toujours présents aux entraînements, etc. Il y a une trop grande disparité, quoi. C'est vrai qu'on avait crié l'année dernière après la poule élite, mais on s'aperçoit que le championnat actuel, vraiment, c'est trop disproportionné, quoi. Voilà, il y a trop d'écart entre, je vois, dimanche prochain, hein, ou samedi soir, il y a Tarbes, Nafarroa. Ça va se solder encore par 50 points, 45, 50 points, et puis surtout derrière, peut-être deux ou trois blessés de plus, quoi.
Oui. On l'avait vu à Albi face à Nafarroa, une des images qui avait sauté aux yeux des supporters, c'est William Wetton, qui n'est pas le moins épais du pack albigeois, qui, après avoir affûté et percuté contre des joueurs basques, s'était retrouvé en face le jeune demi de mêlée de Nafarroa, qui venait tout juste de rentrer, assez frêle, et qui avait coupé complètement sa course d'élan pour faire une passe, parce que je pense qu'en sa tête, il s'est dit, si je vais au mastic, oui, face à lui, je le coupe en quatre.
Voilà, il peut y avoir, Albi peut être accroché quelquefois à l'extérieur, par exemple, je ne sais pas, quand ils iront à Oloron, certains colorants vont mettre tout son courage dans l'affrontement, mais en mettant tout son courage, le danger sera encore plus grand pour les joueurs de l'Oron. C'est comme ça. Je crois que l'année dernière aussi, il est vrai que cette poule élite avait donné beaucoup d'insatisfaction, avec des clubs qui participaient à cette poule et qui financièrement n'avaient pas les moyens, tout simplement. Mmh. Et donc, on s'est tapé à la fin, si vous voulez, il y avait quatre clubs qualifiés, alors que le quatrième aurait pu finir dernier sur le plan sportif. Il était quand même qualifié puisque sur le plan financier, il était dans les clous. Quoi.
Oui, voilà. C'est tard, en l'occurrence.
Oui, c'était tard, en l'occurrence. Voilà.
Et puis, en plus, ça tombait bien de parler de ça, parce qu'on a vu hier qui est sorti une info, La Dépêche, qui disait que Tarbes devait, avant lundi, amener, montrer patte blanche, on va dire, à la DNACG, puisqu'il y aurait un déficit de 400 000 euros, et il leur manquerait les 100 000 euros de fonds propres qui sont obligatoires pour la Fédérale 1. Donc, on voit que les mots de l'an dernier sont en train de ressurgir au cours de saison.
Oui, bien sûr, c'était rugby, le rugby, bon, c'est très dur. Autant les clubs de top 14, on s'aperçoit, gagnent, les riches gagnent, les pauvres trinquent, quoi. Et je regrette pour les Tarbais, parce que il y a un gros potentiel dans cette ville. J'ai assisté d'ailleurs au premier match, Tarbes-Albi.
Oui.
J'avais rencontré, je ne sais pas si c'était où,
il y avait un de mes collègues,
exactement. C'est vrai que Tarbes avait battu Albi, mais on sentait qu'Albi était supérieur. Albi était un petit peu passé à côté de son match. Mais même entre Albi et Tarbes, il y a un écart, quoi. Et je ne sais pas si le fait d'avoir cette poule-là va servir Albi tant que ça, quoi. Mmh. C'est-à-dire que je crois que, à part peu de matchs, deux ou trois matchs dans la saison, ils vont s'habituer peut-être à un train de jeu un peu faible pour eux, et il faudra faire attention au moment des phases finales, quoi, parce qu'ils risquent de se retrouver contre des équipes qui auront un peu plus de mal à sortir de leur poule et qui seront peut-être qui auront un rythme supérieur dans les poules où elles se trouvent. Dans cette poule-là, c'est vraiment très disproportionné, quoi.
Ah oui, quand on voit que dans la poule 1, il y a Cognac, Rouen, Dax, Trélissac et le Stade Nantais, il y a une adversité qui est autre que dans celle d'Albi, où, mis à part Tarbes et Saint-Jean-de-Luz, qui sont en train, pour l'instant, de tenir la corde, il n'y a pas grand monde derrière qui suit.
Voilà, on est tout à fait d'accord, quoi. Voilà.
Parce que quand on a eu Kevin Boulogne hier soir en conférence de presse, on lui demandait s'il préférait un match comme contre l'Annemezan le week-end dernier, ou pas une demi-heure, il prend sur la courge, ou s'il préférait un match comme contre Nafarroa ou Laurent, où c'est à cavalcade jaune et noir. Il nous avait dit, grosso modo, ni l'un ni l'autre, plutôt un mix des deux, parce que l'un ne permet pas, c'est-à-dire la cavalcade contre Nafarroa, de vraiment se talonner, et puis un match contre l'Annemezan où on va dire les gars du plateau ont un peu pourri le match pour essayer de niveler les niveaux, c'est pas aussi
mais
le top.
Bien sûr, mais il faut les comprendre. Hein. Il faut les comprendre. C'est une preuve aussi de. Ils vont pas regarder, ils reçoivent Albi, et ils vont pas regarder Albi jouer, parce que s'ils regardent Albi jouer, l'addition est très lourde, quoi. Voilà. Alors ils essayent d'utiliser des moyens qui sont peut-être jugés quelquefois illicites, mais qui sont au moins des preuves de courage, d'engagement, de. Voilà. C'est certain que Nafarroa, quand ils vont recevoir Albi, même s'il y a un gros écart, il y aura un gros écart à la fin, mais Nafarroa va essayer de tout donner pour ne serait-ce que faire plaisir aux supporters qui les accompagnent sur toute la saison. Quoi.
Et puis vous qui le connaissez bien, sur rugby pyrénéen, ça fait partie de l'ADN de ce rugby pyrénéen, le courage, le don de soi, ils ont ça chevillé au corps.
Ouais, je crois que ça fait partie de tout joueur de rugby, de tout club de rugby. Voilà, que ce soit dans le nord, dans l'est, etc. Si on veut jouer au rugby, il y a ces qualités-là. Bon, on peut pas s'en passer. Sinon, il faut choisir notre sport, quoi. Voilà. Ce que je dis. D'ailleurs, on est en train dans les écoles de rugby, de faire absolument beaucoup de touchés, etc. Je suis pas contre le fait qu'il y ait du toucher. J'adore le toucher. Mais c'est quand même un sport à plaquer, et il faut pas tromper la clientèle, quoi. Le garçon qui choisit le rugby, c'est d'abord quand même un sport collectif de combat. Et contre ça, on n'y peut rien. Si on n'a pas envie de combattre, il faut jouer il faut choisir notre sport.
Il faut pas
chercher absolument à avoir beaucoup de licenciés, etc., à compter nos licenciés. Non. Le rugby, c'est un sport, je le répète, de combat. Et il faut pas tromper la clientèle, quoi. C'est un sport qui se joue sous la pluie, qui se joue l'hiver, qui se joue dans le banc, qui se joue avec l'essence du rugby, c'est le combat. Voilà.
On sait que vous êtes un suiveur assidu de la Fédérale 1. Pour vous, quelle équipe crève l'écran pour le moment dans cette Fédérale 1, qui est, on va dire, à vos yeux, le favori à la montée entre les deux?
Je trouve que Rouen a l'air encore plus équilibré que la encore plus solide que la saison passée. Mm-hmm. Après Valence Romain, c'est pas trop mal non plus. Blagnac, Dijon, tout ça c'est pas mal, mais sincèrement, je crois que l'équipe la plus solide, puisque Dax a quand même des difficultés, Narbonne a des difficultés. L'équipe la plus solide, c'est me paraît-il Albi quand même. Quoi. Voilà, c'est vraiment costaud. Il y a des joueurs à la fois. C'est une équipe bien équilibrée. C'est une équipe qui a été bâtie, qui a une très bonne équipe espoir, une équipe 2, je ne sais pas comment on l'appelle maintenant aussi. Attention, il y a de très bons joueurs chez les jeunes à Albi. Et pour moi c'est le favori, même si c'est pas de la flatterie, non, je le crois, parce que même en perdant la table, il m'avait fait quand même une très forte impression, quoi. Il y a du gabarit, c'est solide, c'est bien structuré, voilà, je crois que c'est le grand favori à Rouen.
Et puis Arnaud Mella, avec l'ensemble de son staff, a su fédérer un groupe autour d'un projet commun. Quand on va à l'entraînement, on sent une franche camaraderie qui ressort de ce groupe. On a vu certains jeunes comme Lasselle, Casals, Cormenier prendre un peu les clés du camion cette année. Et on sent qu'il y a vraiment un état d'esprit qui est conquérant, qui est un état d'esprit aussi convivial, où ce groupe vit bien.
Pas surpris, parce que Arnaud, c'est un garçon, quand il était joueur, etc., partout où il est passé, il a toujours su réunir autour de lui, et donc il est normal que les qualités qu'il a démontrées en tant que joueur, eh bien, et en tant que capitaine dans les clubs où il est passé, eh bien, on les retrouve en tant qu'entraîneur. Je pense que c'est la grande qualité d'Arnaud, c'est de mettre l'humain en avant, et il le réussit très bien. C'est une équipe en confiance qui est forte, quoi. Voilà, qui est forte, qui est solide.
Et puis, vous, en tant qu'ancien entraîneur des jaunes et noirs, vous avez des fois, vous échangez un peu avec Arnaud Mella, lui, le
oui,
nouvel entraîneur.
Oui, il est arrivé à l'intersaison, de temps en temps, on échange sur le recrutement ou des choses comme ça. Moi, je ne l'ai pas eu comme joueur, mais j'ai toujours eu de très bons rapports avec lui. C'est presque un voisin, puisqu'il est du plateau, et moi, je suis au pied du plateau, quoi, en gros, bien à Mirande, et lui, il est du plateau de l'Annemezan. Et bon, il y a cette proximité aussi, quoi, qui fait que moi, c'est un garçon dont j'ai admiré la carrière alors qu'il était joueur, mais je, chaque fois qu'il parle, qu'il a une discussion avec moi, et d'ailleurs on a mangé ensemble lors d'un repas partenaire qui a dû se dérouler au mois de juin à Albi, c'est un plaisir d'échanger avec lui, parce que bon, c'est quelqu'un qui est très simple, qui est à la portée de tous, quoi, qui n'a jamais pris la grosse tête alors qu'il aurait pu le faire, comme d'autres l'ont prise. Lui, il est resté le même.
Ok, mais c'est un beau portrait d'Arnaud Mella, et ça y ressemble pour le voir tout, au jour le jour à l'entraînement. C'est vraiment ce que nous aussi, les suiveurs, en ressent de lui, ce qui laisse transparaître. Allez, je vais vous poser une dernière petite question. Dans la poule 2 d'Albi, il y a, on va dire pour l'instant, un off-di, un mirage, Saint-Jean de Luz, avec un jeu d'arrière très léché. Vous pensez qu'ils vont pouvoir perdurer même avec le temps hivernal qui arrive, ou ça risque de se dégonfler, le mirage Saint-Jean de Luz?
Moi, je crois qu'ils auront des difficultés, mais c'est très bien. C'est très bien ce qu'ils ont fait sur Interland. Les points qui sont pris ne sont plus à prendre, comme disait l'autre. Mm-hmm. Mais parce que Saint-Jean-de-Luz, quand même, aura sur la longueur, bon, mais ils ont, grâce à leur départ, bon, c'est un petit peu l'histoire de la tortue, quoi, et grâce à leur départ très canon, en fait, mais, ils ont pris de l'avance. Les autres vont quand même avoir un peu de mal à les rattraper, à part Albi. Et Saint-Jean risque d'avoir rentré dans le qualifiable. Maintenant, tenir toute la saison, puis ce sera extrêmement difficile pour eux, parce qu'on sent que ce sont souvent des victoires heureuses, des victoires à l'énergie. Il doit y avoir un excellent groupe quand même pour gagner si souvent, mais la saison va être très très longue quand même pour eux, quoi. Voilà, ils n'ont pas l'effectif, d'Albi et de Tarbes pour tenir jusqu'au bout. Après, vous avez parlé des problèmes de Tarbes. J'espère qu'ils vont les résoudre très rapidement. Je pense qu'ils le peuvent, parce que quand même, c'est une des bastions du rugby en France, quand même. Le bastion du rugby dans les Hautes-Pyrénées. Je crois qu'ils vont réussir à résoudre leurs problèmes d'ici lundi.
Tout le monde serait peiné de voir un bastion comme Tarbé être sanctionné pour des raisons autres que sportives. Et on leur souhaite le meilleur pour lundi, pour qu'ils puissent tenter de s'en sortir.
Voilà, mais ils vont y arriver, je sais pas, vous savez, les Tarbes, c'est des durs, c'est les gens du OTPL de 65, d'ailleurs Arnaud Mélanais, c'est des solides, quoi. Voilà, ils sont habitués à être souvent dans la difficulté et à continuer à se battre malgré tout.
Eh bien, merci à Henri Branca d'être venu à notre micro, ça fera plaisir au peuple jaune et noir, aux supporters jaune et noir de vous avoir entendu et d'avoir votre analyse qui est toujours très prisée. Certains vous appellent le Giroud du rugby tant vous êtes penché sur la formation et aimez dénicher les jeunes pousses, et sachez que c'est toujours un plaisir de vous avoir à notre antenne.
Et bon, bien le bonjour à tous les supporters jaune et noir justement.
Voilà. Merci Henri Branca, à très bientôt.
Allez, on part.
Au revoir.
Merci.
Que dire de plus qu'un monsieur avec un grand M, Branca, a parlé? Pas grand chose de plus, car notre ancien coach des jaunes et noirs a toujours cette analyse juste et ce sens du rugby qui transpire toutes ses pores. Et je le répète, ce fut un plaisir de l'avoir à notre antenne. Henri, vous revenez quand vous voulez. Allez, on va quand même jeter un petit coup d'œil sur les autres matchs de Fédéral 1 avec les adversaires du Sporting, mais pas que aussi dans les autres poules, parce que c'est intéressant de savoir que vont faire les probables futurs adversaires du Sporting en quart de finale si d'aventure on se qualifie, et c'est ce qu'on souhaite tous impérativement. Donc en poule 2, le stade Tarbes-Pyrénées Rugby va essayer de panser ses plaies en faisant un match plein face à l'US Nafarroa, où bon, beaucoup pensent, comme M. Branca, qu'ils risquent de prendre une volée, nos amis basques, mais on ne leur souhaite pas parce que c'est une équipe avec qui on a eu un petit coup de cœur quand ils sont venus au stadium. Donc, le Sporting Club Albigeois va recevoir à 19h le Saben Iré. L'AS Lavoir, dimanche, recevra Oloron. Saint-Jean-de-Luz va recevoir Lannemezan. Là aussi, je leur souhaite bien du plaisir à nos amis de Saint-Jean-de-Luz parce que Lannemezan, on l'a vu, ils vendront chèrement leur peau. L'US Marmandez va recevoir Anglais. Olympique, Anglette plutôt Olympique, et l'US Tyros recevra l'avenir valencien. Dans les autres poules, les gros matchs, allez, en poule 4, il y aura un Chambéry-Vienne qui pourrait être intéressant, tout comme un Bonne-Bourgoin qui serait pas mal à regarder. Mais moi, le match que j'ai coché, même les deux matchs que j'ai coché, c'est surtout l'US Sainoise contre le Stade Niçois, un émergent du rugby français, et Grasse face à Dijon-Côte d'Or qui pour l'instant caracole en tête. Dans la poule 3, la poule de nos amis Groyétois. Eh bien, nos amis Groyétois, ils vont se déplacer à l'US Saint-Sulpicienne et ils vont avoir un impératif de victoire. Les hommes de Baka Oé sont le couteau sous la gorge et il va falloir obligatoirement qu'ils aillent décrocher des points s'ils veulent assurer leur maintien. Autre gros match qui va faire couler de l'encre, c'est ce Rovaldrome, ce Valence Roman face à Narbonne. Là, c'est un match entre grosse écurie avec les Narbonnais qui ont un impératif aussi de victoire puisqu'ils ont un peu loupé leur saison. Autre match qui peut être intéressant, Nîmes face à Serré et l'Avenir Castanéen qui recevra Aubenas. Et donc dans la poule 1, il y a déjà un très très gros match puisqu'il y aura le Roi Normandie Rugby qui va recevoir ce vendredi à 18h30 le Rennes Étudiant Club. Rennes, c'est une équipe qu'il faut se méfier parce que bon, c'est pas une équipe qui a vocation pour l'instant à jouer la montée, mais dans les années à venir, ça risque d'être un gros poisson de la Fédérale 1. Il y a aussi un Trélissac, l'équipe un peu surprise, le vice-champion de France du Jean Prat, qui va recevoir Dax, qui pourrait avoir son pesant de cacahuètes. Et on regardera aussi d'un œil assez attentif nos amis de Cognac qui vont aller à Langon, puisque Cognac fait la course pour essayer de rattraper nos amis normands du Rouen Normandie Rugby. Donc voilà un peu pour les matchs qui auront lieu ce week-end et qu'on suivra avec un œil attentif tout au long du week-end et dont on vous fera un retour bien sûr mardi dans le Max Sport comme c'est à notre habitude. Allez, maintenant, il ne reste plus qu'à vous donner rendez-vous à 18h45 sur nos ondes, 95.4, 104.2 ou le www.radioalbiges.com pour suivre en direct live le match avec moi-même et Vincent Clément et bien sûr Arnaud Schmitt à la technique. Ou alors de vous donner rendez-vous en fin de match aussi à la sympathique bodega du comité d'animation où vous pourrez vous restaurer autour d'un verre de bière avec aujourd'hui samedi au menu un tagine et vous pourrez dans la convivialité disserter avec les gladiateurs jaunes et noirs au doux son des mélodies de troisième mi-temps. Allez, maintenant, on va passer au foot avec les filles de l'SPT Football de l'Albigeois qui s'en vont samedi à 20h jouer au stade municipal. Alors, pas celui d'Albi, par contre, c'est celui de Portet-sur-Garonne. Une semaine jour pour jour après le derby victorieux face au TEF 2-0, les rouges et jaunes vont s'échiner dans un nouveau derby, celui-là moins attractif médiatiquement, mais comptablement tout aussi important. Car les filles de Patrice Garrigue et Clément Gallien, actuellement 8e avec 6 points, 2 victoires et 3 défaites, ont un impératif de victoire fixé par leur staff, dont, on va dire, les objectifs sont 1 pour équilibrer la balance victoire-défaite, de 2 pour tenter de recoller au wagon de tête, et de 3 car porter 0 victoire en 6 journées est la lanterne rouge de ce championnat et donc sur le papier un adversaire, dirons-nous, sans jeu de mots facile, à leur portée. Dans ce match dont nous ferons suivre en fil rouge les grands moments pendant notre direct au Sporting Club Albigeois, si les filles présidentes Espiers mettent le pinceau et font preuve d'une cohésion telle qu'elles l'ont démontré le week-end dernier, rien ne devrait leur arriver. Mais, par contre, si le syndrome Fleury de la saison passée entendait le fait que les filles l'année dernière, après chaque victoire, s'étaient relâchées, revenaient poindre le bout de son nez, attention à la grosse désillusion et à la grosse gueulante dans les vestiaires, car Portée est sur une mauvaise série. Mais, vous le savez tous, les séries sont faites pour s'arrêter, et il faut se méfier de ces équipes un brin humiliées qui peuvent disposer de ressources insoupçonnées. À Ariel Roy Petitclerc, Manon Rouzy et aux autres cadres de l'équipe de savoir insuffler cette niaque et cet esprit de la gagne qui est essentiel pour chaque derby. Malgré les blessures d'Alexia Burtin et d'Amanda Tampieri, Albi va bénéficier du retour d'un de leurs atouts offensifs, Gabriela Morales Palmero. On va vous faire écouter une interview de cette attaquante espagnole qui vient de finir de purger sa suspension. Écoutons-le après l'entraînement de ce jeudi soir avec Asia Sidoum à la traduction.
Allez, on est avec Gabriela Morales, de retour à la SPDT après une suspension de 4 matchs. Gabi, bon, ces 4 matchs après une suspension pour, on va dire, un geste d'humeur lors du match inaugural, tu as dû te mordre les doigts de cette réaction d'humeur, on va dire.
So yeah, you've been missing 4 games because of that red card. So like, you must be pretty upset about this whole red card thing.
Oh yeah, obviously I was upset, but we just have to move on, and I'm ready to help the team. I was working hard these past 5 weeks, and I'm ready to help the team and try to do my best.
Donc elle a dit que justement ouais, c'est très frustrant qu'elle s'en veut, mais que ben il faut passer à autre chose, que pendant les 5 semaines qu'elle était en dehors du groupe, à s'entraîner fort, travailler fort pour être prête justement à pouvoir aider le groupe maintenant.
Alors Gabi, on imagine qu'après avoir loupé quasiment le premier tiers, la première quart de début de saison, tu reviens avec le couteau entre les dents, envie de prouver au coach et au public albigeois qu'il va falloir compter avec toi d'ores et déjà.
So yeah, so after missing like 4 games and stuff, you must really want to prove yourself and prove to the coaches and public that like they need to count on you and like they need you basically.
Yeah, of course, after 5 weeks, you have to earn again your spot, and we just see, like, I just believe in myself and in my team, and I think with the help of them, I will be ready to play and bring the confidence back.
Donc ça a dit que justement après 5 semaines, c'est sûr qu'il faut qu'elle regagne sa place, mais que bah, à croire en ses capacités, à croire ses collègues qui vont l'aider à pouvoir démontrer que qu'elle mérite sa place dans le groupe.
Et comment tu as vécu ces 4 premiers matchs sur le banc? Ça doit être compliqué pour une joueuse de voir les copines aller à la ferraille, aller au mastic et suivre un spectateur.
So yeah, how you've been feeling about like just watching the team, I guess, kind of struggle this whole few weeks? It must be hard for you to just be like sitting like and not be able to do anything.
Yeah, of course. Like, I'm not gonna lie, I would be like playing, but also like you just have to assume that you had a red card, and the only thing that you can do is watch the team and how you can help them like from the outside. And now that I watch the team from the outside, like see what they need and try to make it done.
Ok, donc c'est sûr que c'était frustrant qu'elle voulait aider l'équipe dans les moments difficiles, mais que justement la manière qu'elle pouvait aider l'équipe dans ces moments-là, c'était par supporter les collègues à l'extérieur des matchs, aux entraînements, puis que maintenant qu'elle a été en dehors, elle a pu voir ce que l'équipe a besoin, puis elle est prête à pouvoir l'apporter.
Allez, un grand merci à Gabriela Morales-Palmero d'avoir répondu à notre sollicitation d'interview, malgré la barrière de la langue, parce qu'elle, qui a joué deux saisons aux États-Unis, parle un anglais très léché, tout comme bien sûr un espagnol très léché, puisque c'est sa langue natale. Et on va en profiter pour remercier Asia Sidoum, qui nous a bien aidé gentiment pour faire la traduction. Mais pour avoir un panel des plus complets, on va écouter aussi un des deux coachs albigeois, l'homme d'Olemps dans l'Aveyron, Clément Gallien.
Allez, on est avec Clément Gallien, un des deux coachs de la SPLT football de l'Albigeois. Bon, Clément, un derby en chasse un autre, on va dire un derby un peu moins strass et paillette, mais un derby quand même face à Portet, un dépassement à Portet où il va falloir confirmer pour la SPLT.
Oui, il va falloir confirmer. Là, on va rentrer sur notre sixième match. Il va falloir confirmer ce qu'on a pu faire contre Toulouse la semaine passée. Après, ça reste un derby. Pareil, on joue Portet, 0 points. Elle joue chez elle. Et vous savez, bon, comme une bête blessée, hein, on ne sait jamais comment ça va réagir. Donc, par rapport à ça, il va falloir y aller avec beaucoup de précautions, beaucoup de vigilance, mais aussi avec toutes les forces qu'on a pu mettre en place la semaine dernière contre le TFC. Et aller au duel, aller au combat, quoi, parce que ça va être ça, hein, tout simplement.
Parce que contre TFC, c'est l'agressivité, c'est la cohésion de groupe qui ont été une des clés du match. On l'a vu en début de seconde période, quand vous avez pris l'ascendant, c'est là que c'est joué le match. C'est pas tant techniquement, mais c'est surtout dans l'agressivité, la combativité, la cohésion de groupe. Donc c'est sur là ça que vous allez axer votre causerie.
Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est le haut niveau. Le haut niveau, c'est simple, c'est la dualité du combat, de l'agressivité et de la vitesse. Si on arrive à cumuler ça, tout en gardant une assise tactique bien solide, bah derrière, ça, voilà, ça reprend l'ascendant. Donc tous les matchs se résument à ça. Hein. C'est clair, Saint-Etienne, on n'a pas répondu au combat, on a coulé. En Billy, on n'a pas répondu au combat, on a coulé. On le voit au niveau des statistiques. Donc voilà, Portet, ça va être c'est la clé comme tout autre match. Déjà, si on arrive à répondre au combat, au duel, à en gagner plus que l'adversaire et à jouer beaucoup plus rapidement qu'elle, on aura beaucoup plus d'occasions.
Allez, le ton est donné par Clément Gallien, un des deux coachs SPLT. Maintenant, même plus qu'au Jonard, qu'à mouiller le maillot et porter haut le blason albigeois. Et qui sait, j'entendrai peut-être des travées du stadium monter de Haute-Garonne le doux son de la victoire. Allez, les filles, la remontada, c'est pour samedi. Allez, maintenant, on va changer de registre. On va passer au basket. Allez, Will, jingle, breaking news. Eh bien, hier, on a pris quelques nouvelles des Gazelles Carmosine et du club de l'US Carmo par l'entremise de son président. On vous fait écouter cette interview exclusive Radio Albigès.
Allez, on est avec le président de l'US Carmo. Oui, à Radio Albigès, on parle souvent de foot et de rugby, mais il y a aussi le basket, un sport qui est pratiqué en grand nombre dans le Carmosin. Alors, président, bonjour.
Bonjour.
Donc, l'US Carmo, c'est une vieille dame, on va dire, dans le milieu associatif et sportif carmosin, 88 ans d'existence. Vous pouvez nous refaire un petit peu l'historique de l'US Carmo ?
Eh bien, Carmo existe depuis 1930, donc vous faites le calcul. Donc, les années ont passé, et au fil des ans, les équipes se sont formées. Au jour d'aujourd'hui, nous avons une équipe qui évolue en National 2, une équipe senior qui est en niveau 3 régional et qui vise la session. Nous, en tant que féminine, on espère se maintenir. Ça va être difficile, mais on a tous les moyens pour se maintenir. On a fait un recrutement nécessaire poste par poste. Malheureusement, on a une blessure qui est survenue sur un très bon élément. Et là, nous sommes à la recherche d'une meneuse de jeu qui devrait se concrétiser très prochainement quand nous avons des contacts. Ça risque d'être une américaine, déjà pour vous dévoiler un peu la surprise, qui une américaine n'a jamais joué à Carmo, si vous voulez. C'est pas encore fait, mais c'est dans les starting blocks. Voilà. Donc après, pour qu'il y ait des jeunes, nous avons une école de basket associée avec Saint-Benoît, ce qui représente 240 licenciés, tout confondu.
Après, nous avons de très belles installations.
Au Parc Andou ?
Au Parc Andou, bien sûr. La salle Rivain pour les entraînements et les matchs des équipes 2, équipe 3, des jeunes. Nous avons une salle digne de... une des plus belles peut-être de la région, si ce n'est la plus belle, mais là je suis un peu chauvin, mais il y en a beaucoup qui nous envient d'avoir une si belle salle. D'autres clubs vont en avoir d'autres aussi bientôt, je pense à Cunac-Lescure qui va avoir une très belle salle, dont je suis content pour eux aussi. Après, quoi dire d'autre sur le basket carmousin, le public vient de plus en plus nombreux découvrir cette nouvelle équipe, parce que c'est le niveau supérieur, c'est intéressant, et puis c'est un challenge, et on est bien aidé par le public, par nos sponsors, par la municipalité qu'il faut féliciter aussi, par son soutien. Et puis voilà, y a, tous les ingrédients sont réunis pour que ça prenne. Il n'y a pas de raison.
Alors, ces gazelles, c'est quand même, on va dire, l'équipe Fagnon à l'US Carmou. Vous dites qu'elles sont très suivies. Il y a combien de personnes qui viennent à peu près au Parc Andou pour les matchs?
Écoutez, au Parc Andou, en moyenne, on a 200 personnes. Sans compter les gamins, je ne compte pas les gamins. Pour vous situer par rapport à dimanche, samedi soir, on reçoit une équipe de, en dessous de Nantes. Nous aurons, je pense, 300 personnes dans la salle, si ce n'est 400, car après nous faisons un repas Ligo saucisse, et donc nous avons déjà plus de 100 réservations au niveau du repas saucisse. Donc ça veut dire que déjà vous avez 100 personnes dans la salle, sans compter les gens qui vont arriver après, les nouveaux qui arrivent. Donc samedi, je pense que ça devrait être une très grande soirée à Candou, et puis c'est les résultats qui font que les gens s'intéressent aussi à cette équipe.
Alors il y a les gazelles, mais aussi une école de basket. Vous rayonnez dans tout le Camerounais, vous avez des licenciés qui viennent un peu de toutes les villes du Camerounais, j'imagine.
Oui, on a un peu des licenciés un peu de partout, de tous les petits villages aux alentours. Après, nous avons la section sportive du lycée, là qui fonctionne et qu'on va essayer d'améliorer encore plus, parce qu'il faut amener des améliorations. Donc là, des réunions sont prévues avec le lycée très prochainement pour apporter ce qui manque, pour donner de l'engouement à cette section. Après, au niveau des jeunes, nous avons mangé notre pain blanc, si vous voulez, entre guillemets, par des résultats positifs il y a quelques années, des titres de Pyrénées, etc., etc., des champions du tas. Là, maintenant, cette bonne vague est partie et on est en train de tout remettre en place, travailler avec les nouveaux qui arrivent pour retravailler, glaner des titres à droite et à gauche. Et puis voilà, c'est l'histoire, ça tourne et puis il faut que ça recommence. Hein.
Un club, on va dire, qui est en pleine vitalité, vous serez sûrement un président heureux si en fin de saison vient vous voir avec le maintien dans la poche pour ces gazelles de National 2.
Mais oui, si déjà on est maintenu, ce sera une victoire pour tout l'ensemble du bureau, des gens qui sont restés et qui nous aident. Je reviens sur les partenaires qui nous aident. Et puis j'aimerais que les seniors garçons montent, parce qu'on a de l'ambition avec cette équipe senior garçons. Il y a de la qualité, on a recruté un entraîneur de qualité. Il y a des joueurs qu'on a fait venir qui ont des qualités. Avec l'ensemble de joueurs carmousins, donc il y a une très belle équipe. Il y a une équipe 2 féminine qui est montée en région. On aimerait qu'elle se maintienne. Ça va être très dur, mais elles sont très jeunes. Donc l'amalgame vieille entre guillemets et jeune, il faut que ça se fasse, et je pense qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Après, il y a une équipe 3, il y a une équipe 2 masculine. Non, on est bien en place. Écoutez, les résultats seront là, les résultats ne sont pas là, on ne va pas se prendre le chou, on ne va pas jeter la pierre à qui c'est la faute, et on recommencera s'il faut recommencer notre expérience à un niveau inférieur.
Mais merci Président, votre club ne manque pas d'ambition et on vous souhaite le meilleur pour cette saison 2018-2019.
Eh bien, je vous remercie, je suis très content de vous connaître, je ne vous connaissais pas, et écoutez, je vous invite à venir au Parc Andou, vous verrez l'ambiance qu'il y a, et je suis sûr que vous reviendrez souvent.
Ah, il m'accorde pas, merci.
Après avoir écouté M. Bezin, président de l'US Carmo, sur ce Maxport touche à sa fin et sera réécoutable, bien sûr, en podcast sur les réseaux sociaux et sur Internet. Moi, je vous donne rendez-vous avec ma joyeuse bande de compères, dont Vincent Clément, entre autres, Arnaud Schmitt, Didier Rovellat, pour vous faire vivre le match entre le Sporting Club Albigeois et le Stade Bénéré à partir de 19h, en fait de 18h45 sur les antennes de Radio Albigès, sur le www.radioalbigès.com. On espère que le SCN nous fera une belle prestation, et sinon, pour ceux qui ne seront pas là à nous suivre en direct, qui seront déjà au stade, je vous donne rendez-vous mardi à midi pour un prochain Max Sport, de prochaine aventure sportive en terre tarnaise. Allez, adesias! Get ahead of these things, I said, there's a soul.